Bonjour à vous tous rassemblés ici, à vous tous qui êtes peut-être au chaud, derrière un écran quelque part. Mais on est aussi au chaud ici, on est d'accord. Voilà. Alors comment est-ce que vous allez après une semaine plutôt pluvieuse, semaine de vacances, en tout cas pour ceux qui sont parents, qui sont enseignants, pour les enfants? Mais en arrivant ce matin, j'ai vu avec plaisir de la neige, du soleil sur le Jura, sur la route de Meyrin. Voilà. Et ça faisait plaisir. Alors notre culte va tourner un peu autour du regard. Et Paul Robert va nous parler de ce regard de Jésus en particulier. Et quand il m'a dit ce thème, ça m'a réveillé des choses. Et des fois, moi, je passe, par exemple, en allant faire mes courses à Meyrin, il y a un mendiant, là, ou une mendiante, et des fois, je n'ai pas trop envie de le ou de la regarder, parce que, voilà, je suis un peu gêné s'il me demande quelque chose. Ou des fois, ben, je fais un regard, puis un sourire quand même. On a aussi des fois des regards d'évitement, hein, quand on a une personne, on n'est pas tout à fait à l'aise ou on n'est pas, on n'a pas vraiment envie de parler aujourd'hui avec elle. Puis on a aussi nos regards d'admiration, nos regards vers nos enfants, le regard vers une personne aimée. Et puis je pense aussi dans le train. On ne voit pas beaucoup de regards parce qu'ils sont tous sur leur téléphone portable. Mais des fois, c'est sympa quand même d'essayer de regarder des gens, même qu'on ne connaît pas, même sans rien se dire, et d'échanger un sourire. Alors, nous sommes assemblés ce matin sous le regard de Dieu. Regard d'un Dieu qui nous accueille. Là où nous en sommes, hein, dans notre parcours de vie, qui nous accueille dans nos joies comme dans nos peines, des peines qui parfois sont bien cachées, qui nous accueille dans nos réussites comme dans nos échecs, et puis dans notre foi comme dans nos doutes. Voilà. Alors, soyez accueillis par le Seigneur et nous voulons prier pour remettre la suite de ce culte. Seigneur, c'est toi qui nous accueilles ce matin et tu es présent dans nos vies, même lorsque tu sembles absent. Nous sommes rassemblés autour de ta parole, une parole qui nous interpelle, une parole qui nous relève lorsque nous sommes à terre, une parole qui nous redonne des forces quand nous sommes découragés, une parole qui nous redit ton amour quand nous nous sentons dévalorisés. Merci pour ta présence au milieu de nous et auprès de chacun de nous. Nous voulons maintenant tourner nos regards vers Dieu par un temps de louange, animé en famille par Mathieu et Lionel. Merci pour votre service.
Je vous invite à vous lever, si vous le pouvez. Et ce matin, on veut, comme l'a dit Sylvain, concentrer nos regards sur Jésus. Nous qui tentons souvent de l'inclure tant bien que mal dans nos vies, parfois trop confortables, on veut se rappeler que ce ne sont ni l'argent, ni le travail, ni nos loisirs, ni les anges, ni les dominations, ni rien qui nous sauvera. Ce qui nous sauve, c'est Jésus. Alors chantons un puissant Hosanna, ce qui veut dire de grâce, sauve-nous et portons nos regards vers lui. Seigneur, sois le bienvenu ce matin, sois le bienvenu dans nos cœurs, on veut te remettre au centre de nos vies par notre louange.
Nous t'accueillons parmi nous, seul le
était si bon pour nous. On s'en rend si peu compte. Nous voulons chanter que tu es merveilleux. Tu es notre Dieu puissant, tu es éternel. Tu es notre Dieu triomphant, notre Dieu sauveur. Nul n'est comme toi, Dieu puissant, éternel. Tu nous as consolés, tu nous as relevés. Ton amour est si fort, pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, un père et un ami. Si tendre et si patient, tu corriges et conduis toujours à nos côtés. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, d'amour et de paix, justice et vérité. En toi tout est parfait, lumière. Sainteté, splendeur et majesté, tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es.
Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Nous voulons proclamer notre confiance en toi. Parce que tu es venu sur terre, parce que tu as pleuré, souffert, tu as porté le péché du monde pour nous sauver. Nous voulons proclamer ensemble que nous voulons mettre à ta suite. Merci Seigneur pour ton sacrifice à la croix. Nous avons confiance en toi. Tu ne nous abandonnes pas, tu es là. Tous les jours jusqu'à la fin du monde avec nous. Parce que tu es venu sur terre. Parce que tu as pleuré. Parce que tu as donné ta vie.
pour qu'un jour je voie moi aussi. À cause de ton amour infini, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi. Puisque maintenant tu es vivant, puisque maintenant tu es puissant, parce que tu me dis ne crains pas, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi.
Je vous invite à prendre place.
Les enfants, vous êtes... vous réjouissez de retourner à l'école demain ou pas? J'ai pas compris parce que j'ai des réponses assez contradictoires. Bon, je demande pas aux profs. Hein, voilà. Mais maintenant, vous allez pouvoir retourner dans vos groupes ce matin et on va prier pour vous et pour les moniteurs. Seigneur, nous te remettons ces enfants. Nous te prions que tout se passe bien. Nous te prions pour les moniteurs qui s'occupent d'eux pendant la suite de ce culte. Et nous te prions que ça soit l'occasion pour eux de comprendre quelque chose de ton amour pour chacun de nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bonne école du dimanche pour vous. Alors, nous allons lire deux récits des évangiles. Le premier, durant le ministère de Jésus, comme Jésus se mettait en chemin, un homme... Oui, alors, on peut demander à la projection, merci. Voilà, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se mit à genoux devant lui pour lui demander « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi me dis-tu bon ? Personne n'est bon. » sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne fais pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, « Maître, j'ai observé tout cela depuis mon jeune âge. » Jésus le regarda et l'aima. Il lui dit, « Il te manque une seule chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais lui s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste, car il avait beaucoup de biens. Deuxième récit se situe tout à la fin des évangiles, juste après l'arrestation de Jésus. Après s'être emparé de lui, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du grand prêtre. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et s'assirent, et Pierre était assis au milieu d'eux. Une servante qui le vit assis à la lumière du feu le fixa et dit « Celui-ci était aussi avec lui. » Mais il le nia en disant « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre le vit et dit « Toi aussi, tu es l'un d'entre eux. » Et Pierre dit « Non, je ne suis pas. » Après un intervalle d'environ une heure, un autre encore insistait En vérité, celui-ci était aussi avec lui, car il est également galiléen. Pierre répondit, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » À l'instant même, comme il parlait encore, un coq chanta. Alors le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite, « Avant qu'un coq ait chanté aujourd'hui, tu m'auras renié par trois fois. » Il sortit et dehors il pleura amèrement. Seigneur, inspire Paul Robert dans ce qu'il a partagé et ouvre nos cœurs pour que ta parole puisse agir en nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
J'ai un paquet de feuilles, ça va être long. Ça joue comme ça, Raymond ? Oui, bonjour à tous. Plaisir d'être au milieu de vous, et aussi plaisir d'être accueilli par celui que nous adorons, que nous bénissons et qui nous attend. Oui, Dieu nous a créés tous. Il nous a créés, nous dit la Bible, à son image, corps, âme et esprit. Et nous pouvons vivre parmi nos concitoyens, nos contemporains, en utilisant nos corps, nos membres, pour aller à leur rencontre. Notre intelligence et notre cœur, notre âme, pour communiquer, communier avec chacun. Dans ce corps qu'il nous donne, il y a cinq sens, notamment. Il y a le goût, croquer dans un fruit mûr et juteux. Je l'ai fait dernièrement avec une poire, c'était magnifique. L'odorat, sentir le parfum des roses, des herbes de Provence. Le toucher, soulever un verre avec délicatesse, sentir une surface, je le faisais souvent avec mes élèves notamment, sentir une surface, voir si elle était propre à être vernie, et si elle était bien vernie, si le grain était bon. L'ouïe, bien sûr, entendre le chant des oiseaux, et la vue, découvrir les beautés de la nature, la grandeur de la mer, la majesté des montagnes. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 20, verset 12, il nous est dit ceci, « L'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. » Deux sens, l'ouïe et la vue, qui sont primordiales, vitales. Pour la vue, il y a les yeux. L'œil, ou les yeux, on y dit souvent l'œil, hein, pour dire quelque chose, un clin d'œil. Avoir l'œil, jeter un œil, j'en avais d'autres, il y a d'autres qui existent, il faut dire fort, hein, parce que j'entends pas toujours bien moi, il y a l'avoir à l'œil, on l'a à l'œil, un coup d'œil, pardon, bon pied, bon œil, peut-être d'autres encore. Mon œil. Et puis il y a les yeux, hein, avoir les yeux plus gros que le ventre. Ou bien fermer les yeux. Faire les gros yeux, avoir les yeux doux. Faire les yeux doux, hein, etc. C'est vrai que le clin d'œil, par exemple, est quelque chose qui souvent s'utilise, le petit clin d'œil, qui peut être de connivence avec quelqu'un et qui peut faire mal à un autre. D'ailleurs, dans Proverbes, toujours, au chapitre 10, celui qui cligne de l'œil est cause de souffrance. Alors il peut y avoir un coup de clin d'œil pour dire « Ok, ça marche », mais il y a aussi des fois des clins d'œil pour essayer d'avoir l'autre. Œil pour œil, dent pour dent, hein, synonyme de vengeance. jeter un œil rapidement, découvrir, curiosité. L'avoir à l'œil, c'est plutôt la méfiance, hein. Une perte de confiance. Ouf, je l'ai à l'œil, celui-là, là. Bon pied, bon œil, être droit dans ses bottes, hein. Servant, on va. La prunelle de mes yeux. Ah, j'y tiens plus que tout, hein. La prunelle de mes yeux. Les yeux plus gros que le ventre. La présomption. Se croire capable de croire qu'on est plus fort, qu'on va y arriver. Fermer les yeux. C'est des fois un peu de la négligence. Ou l'indifférence. Ou le laisser faire, se laver les mains des conséquences. Mais c'est aussi fermer les yeux, donner une seconde chance. Écoute, je ferme les yeux pour cette fois-ci. Va, et puis tâche de faire mieux. C'est aussi, des fois, hein. L'œil dans la Bible, dans le Nouveau Testament, est aussi présent. Utilisé dans les écrits, quelques exemples. Il y a plein cité là où ça se trouve dans l'évangile, mais je vous le dirai après si vous avez besoin, je ne veux pas tout dire. Mais c'est vrai que dans Marc, par exemple, on voit, non, dans Matthieu, l'œil est la lampe du corps. L'œil. Si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le. Un peu difficile. Pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton prochain et ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Le voici Jésus qui vient sur les nuées. Tout œil le verra. Tout œil. Apocalypse. Voilà quelques passages avec l'œil, il y en a encore beaucoup d'autres. Qui dit œil, dit regard. Et là, je désire m'arrêter un peu plus ce matin. Nos regards, les regards de Jésus, et recentrer nos regards. Quand je recule avec ma voiture, il y a une caméra derrière qui m'indique où je vais. Il y a plein de capteurs qui me font des sons partout, tut. Et elle m'indique en plus, sur le tableau de bord, regardez dans toutes les directions. Alors on ne sait plus où on est. Hein. Des fois je dis, attends, alors, je vais toucher. Regardez dans toutes les directions. Souvent on est invité à porter nos regards. Regarde ce paysage, comme c'est magnifique. Un tableau. Une situation, bonne ou plus difficile. Un conflit. Et puis les enfants, combien de fois ils nous disent « Regarde papa, regarde maman, comme je fais la pirouette, regarde comme je vais à vélo. » Et même plus âgé, hein, adolescent. Un fils me dit une fois, on va skier, il me dit « On va skier ensemble, je veux te montrer comment je skie. » Et nous avons intérêt à porter attention d'ailleurs. Le regard de quelqu'un qu'on a côtoyé pendant un certain temps, même longtemps après, ne s'oublie pas. Par exemple, j'ai des anciens élèves, donc j'ai enseigné à l'école des arts et métiers pendant bien des années. Et les élèves, je les revois, ils viennent me saluer, bonjour monsieur Chanson, et puis ils ont grandi, ils ont grossi, ils ont un gamin ils ont la barbe. Des fois, on ne les reconnaît pas tout de suite. Puis en plus, avec les noms, alors moi. Par contre, ce que je reconnais, je dis toi, effectivement, je connais ton regard. Ce regard ne s'oublie pas. Le regard de quelqu'un ne s'oublie pas. Quel est mon regard? Quels sont nos regards? Comment je vous regarde ce matin? Et comment me regardez-vous? Qu'est-ce que vous attendez, en fait? Et c'est là que... Oui. Quel regard je porte sur autrui, sur la société, sur l'Église et ses membres et ses responsables, sur la famille, la politique, le développement, l'évolution de l'humanité, les sciences, l'art, le sport. Ces regards peuvent être positifs, ça a déjà été dit. Ils peuvent être admiratifs. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est magnifique. Amoureux, bienveillant, encourageant, espérant. Mais ce regard peut aussi, et c'est souvent le cas, en tout cas pour moi, être négatif, rempli de jugement, dur, méprisant, indifférent, c'est encore pire, orgueilleux, hautain, jaloux. Puis il peut être aussi peureux, inquiet, hésitant, avec une fausse humilité. Quels sont nos regards? En tous les cas, ils révèlent une chose, c'est notre nature humaine, avec ses hauts et ses bas, ses bienveillances et ses malveillances, ses pensées parfois bien cachées, hypocrites, bien propres aux yeux de tous et toutes sales à l'intérieur de nous. Nos regards révèlent, nous révèlent, me révèlent ma nature, notre nature pécheresse, sans l'amour de Dieu. Et Jésus, c'est là qu'on va revenir. Et Jésus, quel regard porte-t-il sur moi, sur nous, ce matin? Aïe! Ne me regarde pas, Jésus. Dirige tes regards ailleurs, sur les autres. Je suis un homme pécheur. Et c'est là que l'on se trompe. Jésus nous regarde, mais il ne nous enfonce pas. Je lisais encore ce matin dans un psaume, le psaume 32. Il ne nous enfonce pas, il nous relève, il nous pardonne. Ce regard est toujours aimant, relevant. Dans le cadre des ateliers bibliques de cet automne, Philippe Anchaud se penche sur l'œuvre et la personne de Jésus-Christ. Alors en marge de cet enseignement que je vous conseille de suivre, venez, des fois pas très nombreux, venez, c'est sur les regards du Christ que je désire m'arrêter ce matin. Le Christ, Messie, envoyé de Dieu, Seigneur, et parce qu'il est Seigneur, il peut être Sauveur, Saint, sans péché, et plein d'amour. Ce Jésus, dit-on souvent dans les évangiles, regarde, promène son regard, lève les yeux, soupire, fixe quelqu'un. Je veux en souligner quelques-uns ce matin. Si je voulais tous les souligner, on serait encore là cet après-midi à 4 heures. Soulignons quelques regards du Christ dans les évangiles. Le premier qui m'est venu à l'esprit, on l'a lu, c'est le jeune homme riche dans Marc 10. On a lu cette histoire. Ce jeune homme riche vient vers Jésus et lui demande « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?»« J'ai respecté tous les commandements depuis ma jeunesse. » Quel regard Jésus porte sur lui? Ce jeune homme, de bonne volonté, inquiet pour son avenir, pas tranquille, pas sûr de lui, en recherche de la paix intérieure. Ce jeune homme, bien sous tout rapport, aime Dieu. Il aime son Seigneur. Il aime son Seigneur, son Dieu. Il suit ses commandements. Mais il l'aime jusqu'où? Quelqu'un disait une fois, il l'aime jusqu'à combien? Il l'aime jusqu'à combien? L'ayant regardé, Jésus l'aima. Moi, jusqu'à l'autre nuit, je n'avais pas compris cette parole. Jésus l'aima. Pourquoi cette précision? Jésus l'aima. N'aime-t-il pas tout le monde? Il est venu du ciel pour nous aimer jusqu'à la mort de la croix. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Afin que quiconque, vous, moi, les générations d'avant, les générations qui vont venir après nous, l'ayant regardé, Jésus l'aima. Dans ce regard de Jésus sur ce jeune homme, cette communion d'un instant, dans cet instant-là, dans ces quelques secondes, le jeune homme est l'unique pour Jésus. Il n'y a personne d'autre. Dans ce moment-là, là, quand Jésus le regarde, ce jeune homme est unique. Il n'y a que lui. Il ne voit que lui, Jésus. Il n'aime que lui, dans ce moment. Jésus l'aime. Il désire pour lui le meilleur. Le bon choix, choisis la vie, prends la bonne décision. Jésus l'aima. Nous sommes aussi appelés par le Christ à ce moment unique de rencontre avec lui. Dans ce moment, Jésus nous regarde et nous aime. Nous sommes, dans ce moment-là, avec lui, l'unique. Il n'y a que nous. Sur 8 milliards, il n'y a que moi, que vous, que vous. Jésus l'aima. Il te manque une chose, lui dit-il. Va, vends, donne et suis-moi. Ce jeune homme, on l'a lu, a de grands biens. Il y tient comme à la prunelle de ses yeux. Et il repart tout triste, tout triste. Je disais tout à l'heure, il l'aime jusqu'à combien? Et vous, et moi, nous aimons jusqu'à combien, notre Seigneur? J'aime bien, jusqu'à combien? C'est difficile. Je me surprends à compter, à évaluer, à chipoter. Mais il n'y a pas que l'argent, hein. Il y a également mon temps, mes loisirs, mes dons naturels ou non. Jésus nous regarde et nous aime. Il t'aime. Choisis la vie, fais le bon choix pour repartir non pas triste, mais heureux, libre, vraiment libre. Un autre regard, Jean 1, André, le frère de Simon, conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et lui dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Alors, on aurait pu dire, Jésus lui dit, « Tu es Simon. » Non, Jésus le regarda. C'est souvent... Lisez là, l'évangile, vous verrez le regard de Christ, il est là, sans arrêt. Jésus le regarda et lui dit, tu es Simon, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. C'est un regard d'intérêt, un regard de reconnaître, il reconnaît chez ses disciples quelque chose de particulier, distinctif. Bien sûr, dans ce regard, il y a aussi, je pense, l'amour du Christ. Luc 10, les disciples reviennent de mission. Ils ont été envoyés deux par deux par Jésus-Christ pour annoncer un peu cette bonne nouvelle, ce royaume qui s'approche. Ils reviennent, mais heureux de ce qu'ils ont pu faire au nom de Jésus, de cette proclamation qu'ils ont pu donner. Et Jésus leur dit, je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair, comme un éclair. Un regard comblé, content. Dans les versets qui suivent, on nous dit que Jésus fut rempli de joie. Marc 3, verset 5, dans une synagogue, le jour du sabbat, un samedi. Dans une synagogue, de cette synagogue, il y a un homme qui a le bras paralysé. Question de Jésus à l'assemblée. Parce que l'assemblée attend de voir s'il va le guérir le jour du sabbat. Est-il permis de guérir un jour de sabbat? Il regarde l'assemblée. Hein. De faire du bien, de sauver une personne. Et ils gardent tous le silence. Silence. Alors quoi? Il promena sur eux un regard de colère. Et un regard qui est en même temps peiné, peiné de leur endurcissement. Alors, Jésus dit à cet homme, « Tends ton bras !» L'homme le fait, et il est guéri. Oui, un regard quand même du Christ qui est courroucé, là, peiné, dans l'amour qu'il a pour tous ces gens, il est peiné de cet endurcissement. Et puis le 22, on a lu le texte. Quel regard! Donc Pierre, dans un élan de bonne volonté, affirme au Christ, je suis prêt à aller en prison avec toi, voire de mourir avec toi. Il est sûr de lui, sûr de sa force, de sa volonté, sûr de son amour pour Jésus. En fait, il a les yeux plus gros que le ventre. Par rapport aux autres disciples, il fait preuve de présomption. Je suis le meilleur. Jésus connaît son disciple. il sait qui il est. Hein. Pierre le regarda hein, et il lui dit, Pierre, je t'appelle. Il lui dit, Pierre, certainement qu'il le regarde à ce moment-là, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. Un regard d'avertissement, peut-être une remise en place aussi. Attention, Pierre, fais gaffe. Je voulais juste faire un petit point avant de parler du reniement. C'est que lors de l'arrestation de Jésus à Gethsémané, au mont des Oliviers, de nuit, par une grande foule armée de bâtons, etc., les disciples sortent leur épée, prêts à défendre le Christ. Ils ne partent pas, là, à ce moment-là. Mais Jésus, il tranche même l'oreille d'un des serviteurs. Jésus leur dit, laissez, ça suffit. Et ils se laissent arrêter. L'attitude du Christ les déconcerte complètement, les étonne. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas habituel. Et ils s'enfuient et laissent Jésus seul. Je comprends leur pensée d'un moment. Un feu dans la cour dans la maison du grand prêtre. Une servante. Deux hommes, Pierre et certainement des autres. Tu étais avec lui? Dit la servante. Non! Tu es l'un d'entre eux? Non. Une heure après, il y a un temps, quelle liste. Toi qui es galiléen, tu étais aussi avec lui. Non! Et le coq chante. Le Seigneur se retourne. Et il regarde Pierre. Quel est ce regard? Pierre sort. Et dehors, il pleure amèrement. Sur lui, certainement, sur sa trahison, sa faiblesse. Il culpabilise à fond. Au lieu de dire « je suis le meilleur », il dit certainement « je suis le plus mauvais, je suis le moins bon ». Quel est le regard du Christ à Pierre à ce moment-là? Le Christ qui subit les gifles, les crachats, les moqueries, etc. etc. Regard de reproche? Il aurait pu. Non. Regard de jugement. Tu vois, Pierre, je t'avais bien dit. Je crois pas non plus. Regard désolé et triste. Certainement. Regard d'amour, oui. Comme le coq, comme l'arnion. Trois fois, oui. Regard encourageant, relevant. Peut-être. Même, je dirais même certainement. Plus loin dans l'évangile, après la résurrection du Christ, voyons que Jésus interpelle Pierre par trois fois, là aussi. Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu plus que les autres? Tiens, je suis meilleur que les autres. Hein. M'aimes-tu plus que les autres? Vous connaissez l'histoire. Seigneur, tu sais que je t'aime. Pour que la relation, la communion soit rétablie et que Pierre devienne ce rocher sur lequel Jésus fonde son Église, il a fallu ces trois appels du Christ. Et pour nous, pas besoin de coq. D'ailleurs, on n'a pas, nous, à la maison. Pour nous rappeler nos insuffisances, nos manquements, nos trahisons. Toutes les fois, on n'ose pas dire. Et ça n'arrive. Notre orgueil, notre égoïsme, chacun pour soi, Dieu pour tous, etc., etc. Pas besoin de faire la liste. Cependant, nous dit Jérémie, les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Il désire nous combler à tout instant. Il veut nous donner sa paix, pas celle du monde, la vraie paix. Il pose sur nous un regard bienveillant, relevant, pardonnant. Regard d'amour avec, comme on dit, un grand A. À nous de l'accueillir. En marge de tous ces regards, il y a une présence, les regards du Christ, donc. Il y a une présence, un intérêt, une affection, un don de soi. Derrière tous ces regards, il y a Jésus, le Christ. Que retenir? Quel enseignement à tirer de cela pour nous, chrétiens, disciples de Jésus-Christ, aujourd'hui? que Christ est venu du ciel pour nous faire passer des ténèbres. Dans les ténèbres, c'est noir, c'est nuit, on n'y voit rien. Au royaume de lumière, où il y a le jour, la nuit, les reliefs des couleurs. Et appelé à être aussi porteur de lumière. Il nous invite à demeurer dans la foi, pas comme le Thomas, le célèbre, parce que tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et dans la foi, la confiance, l'espérance, la vision de l'invisible, donc le sien, le Fils est l'image du Dieu invisible, et le Christ, celui qui m'a vu, a vu le Père. Le voir avec les yeux de la foi. Regarder avec le cœur. Pas celui-là, le cœur, c'est notre être. Les autres, regarder avec le cœur les autres, la société, nos amis, nos ennemis, ceux qu'on aime moins bien. Aimer, aimer comme le Christ. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie. Ce matin, nous sommes invités à regarder, je dirais à recentrer nos regards et suivre l'enseignement de Jésus. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et votre Père céleste les nourrit. Regardez. Ne valez-vous pas plus qu'un de ces moineaux ? Levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent déjà pour la moisson. Jean 4. Invitation à servir, à être dans nos actes, nos regards, porteurs de la bonne nouvelle à ceux qui sont autour de nous, qui ne la connaissent pas. Nous sommes invités à paraître devant lui, avec lui, Colossiens 1, saint, sans défaut et sans tâche, grâce au ministère de réconciliation du Christ. Mais il nous met aussi également en garde, hein, nous les messieurs. Tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Ça, c'est difficile. Et on a besoin de l'amour du Christ et surtout de son aide dans cela. Puis Luc 9, celui qui met la main à la charrue, et regarde en arrière, on ne peut pas faire un sillon droit. N'est pas propre, n'est pas bon, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Ça nous invite à la persévérance, à la constance, à ne pas se décourager malgré les circonstances. Je terminerai avec cette injonction du Christ. Merci. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, c'est dans Hébreux, donc il vient de parler de tous ceux qui nous ont précédés, qui sont des lumières pour nous. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enlace si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, la vie de tous les jours. Les yeux fixés sur Jésus, qui est le pionnier de la foi et qui la porte à son accomplissement. Nos regards en premier, les yeux fixés sur Jésus. Amen. Je propose un petit moment de silence. Thank you.
après 3 ans de service, Jésus se trouve à Jérusalem à l'approche de la grande fête juive de la Pâque. Les chefs religieux cherchent un moyen d'éliminer Jésus. Il dérange trop. Et Jésus demande à ses disciples de préparer le repas traditionnel de la fête. On est juste 1 ou 2 heures avant l'épisode de Pierre, qui se situe après l'arrestation de Jésus. Si nous partageons cette sainte scène, c'est en mémoire de ce dernier repas. Juste avant ces événements tragiques, mais qui en même temps sont la source de notre salut. Et je crois que c'est aussi la source du salut du monde, pas seulement de notre salut individuel. Quand l'heure fut venue, Jésus se mit à table avec les apôtres et leur dit « Combien j'ai désiré prendre ce repas de la Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le déclare, je ne le prendrai plus jusqu'à la venue du règne de Dieu. » Ayant reçu une coupe, il remercia Dieu et dit « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le déclare, dès maintenant, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que vienne le règne de Dieu. » Puis il prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le partagea et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il leur donna de même la coupe après le repas en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance qui est conclue grâce à mon sang versé pour vous. » Seigneur, en partageant ce pain et ce vin, nous reconnaissons l'immensité de ton amour inconditionnel pour chacun de nous. Nous reconnaissons nos fautes et nos manques, et nous accueillons ton pardon libérateur. Et nous voulons apprendre de toi à aimer et à pardonner jour après jour. Que ton esprit nous accompagne. Demandez à 2 ou 3 personnes de nous aider pour la distribution. Ceux qui souhaitent prendre la coupe, Paul Robert la leur apportera. Il y a comme d'habitude du jus de raisin au centre des plateaux. Vous êtes libre d'exprimer des prières à Dieu pendant ce temps de partage.
prie, Seigneur, après avoir posé un regard d'amour sur moi, tu me dis une parole de vérité, comme tu l'as fait au jeune homme riche. Pour le jeune homme riche, et ouais, donne-moi la foi pour la recevoir et l'accepter et la mettre en œuvre dans ma vie. Amen.
Amen. Seigneur, combien de fois je prends des engagements envers toi et je ne les tiens pas jusqu'au bout. Ce regard de Jésus plein de tristesse me touche, Seigneur, dont on a parlé ce matin. Mais merci parce que tu ne t'arrêtes pas à ce regard, tu continues de me regarder avec amour et tu veux m'encourager. Et me dire que tu ne désespères pas de moi. Comme l'a dit quelqu'un, tu ne te fais aucune illusion sur les gens, mais tu ne désespères de personne. Alors merci Seigneur pour cet amour inconditionnel. Je veux te louer et t'adorer et te bénir dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen.
Seigneur Jésus, merci pour cette proximité. C'est vrai que Paul Robert l'a rappelé, pour le jeune homme, il l'aime. Et ce regard de Jésus sur ce jeune homme, j'ai envie de paraphraser et de dire comme si Jésus me disait « Je te vois ». Merci pour cette proximité. Tu n'es pas dans le ciel, dans un nuage, je sais où tu es en face de moi et tu me vois. Alors, Seigneur Jésus, que ce regard puisse nous profiter, ce regard d'amour puisse transpirer de notre personne autour de nous. Que le Seigneur soit remercié et nous puissions être réconfortés. Amen. Amen.
Oui, Seigneur, frappe-nous de toute critique, de tout jugement. Tu n'aimes pas cela. Seigneur, toi, tu as regardé ce chemin et tu l'aimes. Tu nous aimes aussi, mais tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas quand on fait. Je te dis que tout est critique et de jugement. Aide-nous.
Seigneur, merci parce que tu regardes à travers nos cœurs, tu nous regardes sans jugement, tu sais ce qu'on ressent, et tu nous regardes à travers nos cœurs. Avec plein d'amour, tu connais nos peines, nos souffrances. Merci parce que tu ne bouges pas, parce que tu nous aimes, Seigneur. Apprends-nous aussi à avoir un regard sans jugement envers chacun. Qu'on puisse regarder aussi avec amour, avec intérêt.
Oui, merci Seigneur pour ta vie donnée, pour ce regard qui donne à chacun d'entre nous sa vraie valeur unique à tes yeux. Nous te prions pour nous-mêmes, pour nos bien-aimés, nos familles, nos amis. Nous te prions aussi pour ce monde où la quête du pouvoir fait tellement de dégâts. Nous te prions pour ton Église, pour la nôtre en particulier, pour que ton Église soit porteuse d'espérance, que nos vies et notre communauté soient porteuses d'espérance ici à Mérin et dans le monde. Amen. nous allons maintenant avoir un temps d'offrande et un temps de chant en même temps. Un temps d'offrande, c'est l'occasion de manifester notre engagement par notre contribution financière qui reste, comme on le dit chaque fois, entièrement libre, mais qui permet aussi à l'Église d'avoir les moyens d'agir, de servir, de rétribuer son équipe pastorale.
Je vous invite à vous lever, si vous pouvez, pour chanter notre reconnaissance pour la croix. Un chant qui dit merci pour la croix, pour ton sacrifice parfait, pour ton amour si grand et vrai. Chantons, on a tant parlé de lui.
On a tant parlé de lui et tant méprisé aussi. On a voulu l'effacer en lui perçant les deux pieds, provoquer l'humiliation en le clouant sans raison. On a craché sur celui dont le visage aujourd'hui m'éblouit. Près de ce bois, à genoux devant ta face, je reçois ta pure grâce, j'élève mes mains vers toi, je veux que tu guides chacun de mes pas.
Nous remettons cette offrande, nous te remettons le conseil et les responsables de notre Église pour que tu accordes à chacun toute la sagesse dans la gestion des affaires de la communauté. Dans le nom du Christ, amen. Quelques annonces. Rien de spécial au programme cette semaine, mais ce programme, vous en avez des versions papier sur une table, et ceux qui le reçoivent habituellement par la poste, puisque c'est possible, biffez votre nom pour qu'on ne vous l'envoie pas à double. Le prochain atelier biblique est dans 10 jours, mardi 4 novembre, à 20h. Le royaume de Dieu, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Et dans 15 jours, la kermesse œcuménique à laquelle nous participons, donc samedi et dimanche au centre œcuménique, de samedi après-midi et le dimanche la journée. Et l'absence de Philippe annoncée donc du 8 au 20 novembre. Voilà, pour le reste, vous référez au programme. vous propose de vous lever pour écouter cette parole d'un psaume. Ceux qui regardent vers le Seigneur deviennent radieux, leur visage n'a plus à rougir. Un malheureux a crié au secours, le Seigneur l'a entendu, il l'a sauvé de toutes ses détresses. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Heureux ceux qui trouvent leur refuge en lui. Bonne semaine dans la présence du Seigneur.